Ce n'est pas d'hier que Montréal cartonne aux cartoons. Depuis les débuts de l'ONF et de Norman McLaren, Montréal tire son épingle du jeu sur la scène mondiale par son talent et ses réalisations en animation. Et depuis 35 ans, une boîte de production d'ici fait également parler d'elle à travers la planète. On jase petit bonhomme avec Tonic DNA. Bon podcast!
Bonjour et bienvenue chez Tonic DNA, le studio Pascal Blais. Oui, allô?
C'est Normand.
Bonjour Normand, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Je suis ici avec Vincent et Bernard.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, Normand.
Bonjour, Normand.
Vous allez bien?
Oui, ça va, toi?
Oui, ça va bien.
Écoute, moi, je suis un des cofondateurs de ce qui est Studio Pascal Blais à l'époque. En fait, j'ai parti ça avec Pascal il y a déjà 35 ans. On était tout jeunes à l'époque. Du haut de nos 23 ans, c'est ce qu'on a fait.
Ah oui,
hein? On a développé l'entreprise tant du côté publicitaire particulièrement, du côté de Montréal à l'époque. Puis évidemment, l'entreprise s'est développée progressivement et avec les années, on s'est quand même imposé dans le secteur de la pub. Progressivement, on est allé aussi du côté des marchés extérieurs. Donc, on a travaillé du côté de la pub, du côté de la France, du Mexique, du reste du Canada, un peu aux États-Unis. Parallèlement à ça aussi, on a produit certains projets, dont deux qui ont eu un peu plus de prestige, qui étaient La vieille dame et les pigeons, Le vieil homme et la mère, tout ça, qui sont des films qui sont peut-être plus artistiques, mais qu'on a réussi, en fait, à placer dans le réseau mondial.
Mm-hmm.
Les deux films se sont mérités, en fait, à peu près tous les prix en animation dans le monde, nomination aux Oscars pour un. Le deuxième, est-ce qu'on l'a réussi? On a eu l'Oscar du meilleur film d'animation à l'époque. On est rendu en l'an 2000. Donc, de façon plus précise aussi, on était un peu dans les premiers à faire des effets visuels pour les longs-métrages québécois à l'époque, ce qui n'était pas évident, ce qui était un nouveau monde. On était, en fait, il y avait à peu près personne qui faisait de l'animation au Québec dans ce temps-là. Donc, on a eu un côté un peu pionnier. On a développé différentes technologies. On a réussi à faire des films qui d'auteurs qu'on pensait ne pas être possible dans le privé au Québec. On l'a fait, c'est des films qui sont retrouvés partout dans le monde, qui ressortent encore en passant. On va relancer Le vieil homme et la mère pour son 20e anniversaire l'année prochaine.
Yeah.
On a eu des demandes pour ça. Fait qu'on va probablement le rediffuser sur une base mondiale, ça s'en vient là.
Excuse-moi Bernard, les films auxquels tu fais allusion, les premiers films québécois avec lesquels vous avez collaboré, as-tu quelques titres?
Il y a eu tous les films de Rock Demers, de Yves Simoneau, à l'époque, là, la série de Contes pour tous.
Oui.
On travaillait à peu près là-dessus. C'est ça qu'on s'est fait les dents pas mal sur ça. Ça remonte déjà quand même un petit bout de temps. Mais il n'y avait même pas de maison d'effets visuels au Québec dans ce temps-là. On parlait de faire ce qu'on appelait les optiques, ce que tu dirais du compositing film aujourd'hui.
Oui.
On était obligé de faire ça en bonne partie à Toronto. Il y avait peut-être une boîte chez Sonalab à l'époque qui le faisait. Mais finalement, on a parti notre propre maison d'optique qui a roulé jusqu'en 97 ou à peu près quand on a fait le virage numérique à 100%.
Mm-hmm.
Je sais pas, on faisait en fait tous les génériques de films, des films québécois dans le privé. Là. C'était pas mal nous autres qui les faisaient. Les effets visuels qu'on pouvait réaliser à l'époque avec le genre de budget, ben, les premiers matte painting, les premiers... les premières incrustations d'animation dans des films live, là.
Mm-hmm.
C'était un petit peu ça, les films de Roger Quentin, par exemple, aussi à l'époque, tout ça. Et évidemment, après ça, c'était le virage. On s'est reconcentré, en fait, sur la publicité, qui était toujours, en fait, ce par quoi on s'est affirmé dans le temps. Et voilà.
Bien répondu.
Ouais, c'est assez long à ton goût.
C'est peut-être long, mais c'est intéressant. Dis-moi, le fait de gagner des Oscars, ça a-tu, au-delà de c'est flatteur, c'est sharp, wow, mais ça a-tu changé de quoi dans votre business?
Non, moi je veux dire, c'est étonnamment au Québec, quand tu gagnes sur une base internationale, par exemple, ça veut pas dire que ça va faire lever ta business sur la base locale. Parce que il y avait un problème de perception peut-être à l'époque de dire bon ben là ils vont se concentrer sur les films, ils vont se concentrer sur les big shots de Los Angeles puis tout ça. Non, on dit regarde, on a fait des films parce qu'on avait le goût de les faire, on les a produits, on les a poussés le plus possible, mais il en reste pas moins que notre mission c'était aussi de faire de la pub, de faire des projets, de travailler en animation puis de travailler sur une base locale.
Ça a-tu eu l'effet contraire?
je te dirais, la première fois, oui, probablement, ça a eu l'effet contraire. Comme d'autres Québécois, par exemple, qui s'étaient démarqués à l'époque, on a eu du chemin à remonter à quelque part pour que les gens se rendent compte que, tu sais, ça a été le fun, on a fait des films, ça a marché, puis on est content, c'est tout, puis on continue d'être qui on est, puis de faire ce qu'on fait avec le plus de plaisir, avec les possibles, puis avec les gens autour de nous. Je veux dire, si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on l'a fait dans un contexte québécois avec des gens avec qui on a travaillé, puis on est là pour rester. La preuve, on est rendu à 35 ans!
Eh ouais.
On s'est jamais vu comme une maison qui fait du 2D ou qui fait du 3D ou qui fait du stop motion. On est une boîte d'animation, en fait. Ce qui est important pour nous autres, qui nous a l'idée tout le temps, c'est de dire, quand on a un projet, ce qu'on regarde, en fait, ou quelqu'un nous soumet un projet, c'est de dire, OK, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte? Comment on veut le développer? C'est quoi le output final qu'on recherche en termes d'esthétisme, de valeur de production, tout ça? Puis la façon de produire, que ce soit du 2D, du 3D, du stop motion, on s'arrange avec ça. On va essayer de trouver le meilleur médium ou le meilleur pipeline qui va arriver au résultat qu'on espère. À partir de là, notre équipe a été développée en conséquence. On a une équipe formidable, des gens qui ont des compétences croisées, qui sont... je les appelle pas des spécialistes, mais des super généralistes qui travaillent en équipe. Des fois, t'en as un qui lead un projet, des fois, c'est l'autre, puis celui qui leadait le précédent est en train d'aider. C'est vraiment un travail d'équipe.
Le Mexique, pourquoi c'était intéressant de développer le Mexique au-delà du fait que toi, tu parles espagnol?
Ben, c'est un marché qui grandit énormément, puis ils ont un intérêt pour l'animation. Donc, quand on regarde leur production, je dirais facilement, plus que 50% de leur production contient de l'animation.
Ah oui, hein?
Oui. Et on avait aussi commencé à développer des marchés comme le Costa Rica et la Colombie, qui étaient aussi d'autres marchés qui étaient très intéressés par l'animation. De plus, juste pour te dire que au Mexique, quand une maison de production vient du Canada, il y a quand même un prestige qui est associé. Mm-hmm. On avait quand même pas mal un avantage à travailler en Amérique latine.
Pourquoi le Canada est prestigieux selon toi?
Depuis, Norman McLaren, depuis les tout débuts du cinéma et de l'ONF, particulièrement au Québec, parce que l'ONF est quand même aussi du côté de Montréal. Donc ben oui. Ça remonte quand même déjà à loin. L'autre chose qui a joué pour nous autres, c'est qu'on a toujours été innovateurs du côté de l'animation. C'est ce que les gens savent peut-être moins. Si tu fais juste regarder, par exemple, à l'époque, au niveau des caméras d'animation Hawksbury, ça a été développé, oui, aux États-Unis, mais sur les recommandations de l'ONF et des entreprises privées canadiennes. Mm-hmm. Ensuite de ça, tu as eu les premiers logiciels d'animation. Tu regardes Soft Image, c'est Montréal. Ensuite de ça, tu as Autodex, qui est basé à Montréal. Flame a été inventé à Montréal et c'est un immense logiciel de compositing. Les cartes vidéo Matrox, ça venait de Montréal, les meilleures cartes performantes. Il y a toujours eu beaucoup d'innovation, tant du niveau technologique que de l'usage de l'animation de façon quand même très créative. On n'était pas la plus grosse plateforme, on n'était pas Los Angeles, on n'a pas les studios comme aux Indes. Mm-hmm. La créativité en termes d'animation est quand même reconnue ici. Un studio d'animation qui fait la qualité, la variété des styles, des techniques qu'on fait, ça n'existait pas là-bas au Mexique. De dire oui, je peux le faire à Montréal, puis de voir que c'est disponible là avec des gens qui travaillent en étroite collaboration avec les Mexicains là, sur un pied d'égalité, ce qu'ils n'ont pas avec les Américains. Ils ont trouvé ça super sympathique.
Puis là, 35 ans après avoir établi la validité de votre offre, votre renommée, vous dites, ah ben c'est trop facile, on change de nom, on repart en start-up.
Ben oui, regardons ça, tu sais, on a toujours des nouveaux défis.
Ouais. Ben non, on s'est dit que c'était à peu près ça, là. C'est notre 35e anniversaire cette année. Puis on a eu des gros changements dans les 6 derniers mois. Notre équipe a beaucoup grandi. On a commencé à offrir de nouveaux services, on a de nouveaux réalisateurs qu'on représente, donc il y a eu une grosse croissance vraiment dans les derniers 6 mois. Mm-hmm. De plus, le choix de notre nom, qui est Tonic DNA, DNA qui est court pour découvrir nos animateurs, c'est fait partie aussi de notre mission et notre culture ici au studio, où on veut vraiment mettre de l'avant nos artistes.
Sauf qu'en français, les réalisateurs ont disparu dans le jeu de mots.
Oui, C'est vrai, mais les réalisateurs font partie aussi de nos animateurs. Parce que ce qui est important, c'est que nos réalisateurs, c'est aussi nos animateurs.
OK, je pensais que vous aviez juste des réalisateurs anglophones.
Non.
J'ai eu peur.
Non, il y en a des francophones. Mais je veux dire, ça reflète un peu aussi notre esprit d'équipe, découvrir nos animateurs, parce que on travaille, tu sais, je te disais tantôt, on travaille beaucoup en équipe. On permet avec un projet, par exemple, qui nous arrive sur la table, on va le regarder, puis souvent, on va se ramasser avec plusieurs des artistes à l'interne, on va regarder le projet de façon collaborative. Puis une fois, ça peut être un qui va prendre le lead parce qu'il a la meilleure idée. Des fois, ça peut être l'autre qui va prendre le lead sur le projet. On travaille vraiment, l'animation, c'est un travail d'équipe, mais on n'est pas très hiérarchisé ici, je te dirais. Il y a beaucoup de collaboration spontanée. Les gens apprennent beaucoup les uns des autres. À titre d'exemple, si on pense qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre pour le type de design qu'on recherche pour ça, tu peux être designer ou directeur artistique sur un projet, puis le lendemain, tu peux être animateur sur l'autre projet, puis après ça, ben non, moi, la vision composite thing, je la vois comme ça. Les gens ont des postes qui leur est attitré, mais en même temps, de façon informelle, il se passe beaucoup de choses, chacun collabore au projet.
Ça, c'est atypique de votre entreprise versus l'industrie?
Oui, c'est assez atypique, je te dirais, parce que c'est généralement très départementalisé. Faire un exemple en 3D, par exemple, les gens en 3D qui font du modeling, souvent ils font du modeling. Ceux qui font de l'animation. Là-dessus, tu vas avoir un directeur artistique, un réalisateur. Tu as quelqu'un qui va s'occuper de compositing, il ne fait que du compositing. Ici, on essaie à ce que les gens aient des compétences croisées. Ils ne seront pas le meilleur compositeur, mais pour faire la job et arriver à faire la finition puis donner le look qu'ils cherchent, ils ont assez de compétences pour le faire et ils vont avoir le support des autres qui sont plus compétents.
J'aimerais juste rajouter, le fait qu'on travaille dans le milieu publicitaire, ça nous a vraiment donné la formation d'avoir une équipe diversifiée. Donc, on travaille sur des projets tellement variés, que ce soit en 2D, en 3D, en motion design, c'est vrai qu'on a une équipe de généralistes qui, quand même, on va avoir une artiste en stop motion qui sait aussi faire de l'animation 2D, elle peut aussi faire des illustrations avec du compositing. Mais c'est quand même important qu'on ne veut pas qu'un projet va prendre toute l'équipe, la disponibilité de toute l'équipe. Après ça, on ne peut plus être disponible pour d'autres opportunités.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue avec le téléphone présentement chez vous?
Non.
OK, ça doit être la ligne qui fait ça. On dirait que quelqu'un mange du popcorn. Vincent?
Ah! Oui, on fait toujours ça dans notre vie,
les animations de popcorn.
Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du popcorn à Noël, nous autres.
Ah oui, c'est votre tradition?
Oui, on a fait ça depuis
une couple d'années. Hein? Ah, okay. Notre cadeau de popcorn.
Moi, je donnais de la pizza, ça me coûtait trop cher, j'ai lâché ça tout de suite. Stéphanie, je crois que c'est toi qui disais que vous aviez vécu une forte croissance récemment dans le célèbre Animation Magazine. J'ai aucune idée c'est quoi l'Animation Magazine, mais je vais dire qu'il est célèbre. Tu disais, « In coming months, we will set the stage for our future and certainly that of the animation community in Quebec. » Ça veut dire quoi, ça?
Ben, pour nous, c'était très important de développer l'animation dans le marché publicitaire au Québec. Présentement, on est en train d'organiser des ateliers d'animation à travers les agences de publicité. Le but, c'est vraiment pour que les clients, les créatifs pensent animation. Et donc, c'est un plan qu'on a cette année vraiment pour pousser ceci.
Mais vous, de votre côté, en tant qu'entreprise, au-delà des petites rencontres sympathiques avec les agences, y a-t-il des projets qui vont faire en sorte que, ben ouais, c'est qui ces malades-là?
On dirait qu'il y a une... On a des projets, mais à l'instant, on est en production en cours, donc c'est un peu confidentiel, on ne peut pas parler trop de ça, mais on va être capable de l'annoncer vers le mois d'octobre.
Oui, le problème avec les projets, c'est que c'est pas DNA, c'est MDA. C'est toujours le bout du problème parce que, tu sais, on voudrait pouvoir créer des annonces, mais en même temps, on peut pas en parler tant aussi longtemps que c'est pas sorti. Mais effectivement, on est en train de regarder sur une base à long terme. On essaye de se redéfinir comme entreprise, justement pour créer une place, une plateforme où on produit à Montréal des projets de très haute qualité, dont je pense qu'on va pouvoir être fiers, qui sont à la hauteur des compétences des gens d'ici.
Fait que cette croissance-là, ce projet dont on ne peut dire le mot, un peu comme Voldemort en octobre, va avoir un impact sur la communauté d'animation, pas juste sur vous?
Non, mais je pense ce n'est pas nécessairement juste ce projet-là, c'est de dire que ça va avoir un impact sur l'animation, c'est de dire que oui, il y a d'autres genres de projets qui peuvent se faire à Montréal, que c'est possible et que c'est le fun à faire. Et c'est vrai pour nous autres, mais c'est vrai, je veux dire, pour l'ensemble des boîtes de production à Montréal. Okay. C'est vrai aussi pour, il y a l'Alliance Québec Animation qui est très active depuis quelques années. Vous les voyez passer sous le couvert, enfin, on n'entend pas trop parler. Mais les gens travaillent fort. L'industrie, en général, travaille très, très fort. Il y a d'autres boîtes qui font de la série du long métrage, des choses comme ça. Mm-hmm. Et les boîtes se tiennent. On veut que ça développe. On veut que les entreprises locales se développent très, très bien, arrivent avec des produits qui sont originaux puis qui se démarquent. Et je pense que, et par nous et par d'autres aussi en ville, je pense qu'on va voir que c'est le fun ce qui se passe.
Perspective d'avenir, j'écoutais votre nouveau reel. Au début, j'ai fait comme, ben là, sont donc ben nono. 6 jours après avoir annoncé le nom, il y a encore ce logo sur Pascal Blais qui commence l'animation, mais là, j'ai vu que le DNA y arrivait, fait que j'ai barré ma question pour vous traiter nono.
Est-ce que tu essaies de dire qu'on devrait enlever cette intro?
Ça fait un contre-emploi. On dirait que vous vous attachez encore à d'autres choses, alors que de toute façon, quand je regarde sur YouTube, en bas, c'est écrit Tonic DNA, c'est pas écrit whatever, tu sais,
fait que... Non, tout à fait.
Assumez-vous. Perspective d'avenir, ouais, c'était ça mon intro, perspective d'avenir, parce que j'ai remarqué, derrière la petite musique qui commençait à me gratter les bras, à un moment donné, j'ai entendu des mots, puis là, c'est « We're on the roll now, we can slow down », perspective d'avenir.
C'est une belle observation, ouais, tout à fait. We're on the roll, we can slow down.
Fait que c'est juste ça. Votre perspective d'avenir, c'est...
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!